Bien-aimés, nous arrivons ce soir à notre cinquième étude sur le sujet « L'époux et l'épouse ». Cinquième étude, et cette cinquième étude, nous l'intitulons « Les préparatifs au mariage à venir ». Préparatifs au mariage. Nous avons vu que l'épouse était dans la condition d'une fiancée. L'époux lui est maintenant ôté. L'époux n'est pas... il est présent en esprit, mais il n'est pas présent visiblement. Le Seigneur Jésus a dit lui-même que l'époux était ôté aux amis de l'époux ou à l'épouse. Et nous savons qu'il reviendra la chercher, qu'alors, dans la cité de Dieu, se célébreront les noces de l'agneau. Alors, les préparatifs au mariage. Je vous avais dit dès la première étude que notre thème, l'époux et l'épouse, allait mettre en particulière lumière la vie chrétienne. La vie chrétienne, si je puis dire, s'explique bien, se justifie dans ce cadre de l'époux et de l'épouse. Nous venons de parler de l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur, Dieu a voulu que nous puissions le concevoir comme l'amour de l'époux à l'égard de l'épouse. Et naturellement, inversement, de l'épouse à l'égard de l'époux. Toute la durée de la vie chrétienne nous est laissée pour préparer le mariage à venir. Vous me direz, mais il y a aussi l'évangélisation. Naturellement, ce sont deux choses, l'évangélisation. Nous allons d'ailleurs en dire quelque chose de cela. Mais ça rentre aussi dans le cadre. Vous allez voir, ça rentre dans le cadre de la préparation au mariage à venir. La vie chrétienne, je le répète, nous est donc laissée par Dieu pour préparer le mariage à venir, l'union éternelle de l'épouse et de l'époux. Alors, nous verrons ça en quatre points, en quatre aspects. Le premier aspect est celui de la croissance, parce que on ne marie pas les enfants, on ne marie que les grandes personnes, les personnes adultes, et il faut que l'épouse soit adulte. L'Église doit donc être majeure, il faut qu'elle croisse par conséquent, qu'elle grandisse et qu'elle atteigne la maturité, cela pour chacun de ses membres, naturellement. Et cette maturité est appelée, dans Éphésiens, chapitre 4, la stature parfaite de Christ. La maturité, c'est cela. La perfection chrétienne, c'est cela. L'état d'homme fait, aussi, ça se nomme dans l'Épître aux Hébreux, notamment, chapitre 5. L'état d'homme fait, arriver à l'état d'homme fait, c'est-à-dire à la majorité, au plein développement, le plein développement que Dieu veut pour son Église. Il faut que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait, dit Éphésiens 4, 13, que nous soyons parvenus, il faut parvenir, il faut arriver à l'état d'homme fait. Et je vous lirai, outre le texte que je viens de citer très rapidement, je vous lirai deux autres textes. D'abord, Philippiens, Épître aux Philippiens, chapitre 1er, versets 9 à 11. Philippiens, chapitre 1er, verset 9. « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente, de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, c'est-à-dire pour le mariage. Pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Il faut donc que l'Église croisse, grandisse, acquiert du discernement, le discernement des choses les meilleures, des choses qui sont selon la volonté de Dieu. Et il faut pour cela que l'amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Voilà donc un texte qui nous montre bien le développement de l'Église tout entière, mais de chacun de ses membres aussi, naturellement. Un second texte dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 12. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité gémée. Vous savez que le mot est remplacé maintenant par amour, n'est-ce pas? Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Vous voyez, n'est-ce pas, il est toujours en vue le retour du Seigneur, son avènement, sa venue, et par conséquent, tout de suite derrière sa venue, les noces de l'agneau, le mariage à venir, comme je l'ai appelé tout à l'heure. Voilà donc deux textes, il y en a d'autres, qui nous montrent la nécessité d'une croissance, d'un développement de l'intelligence, de l'affermissement du cœur, pour arriver à être irréprochable. Nous savons que l'épouse de Jésus-Christ doit être présentée irréprochable, irrépréhensible, une vierge pure. Ah, nous l'avons déjà vu, ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, bien sûr, mais Dieu fera cette œuvre en tout celui qui s'offrir à Dieu. Cela nous est dit, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 6, s'offrir à Dieu, offrez-vous à Dieu, s'offrir à Dieu. Il nous est dit aussi dans le chapitre 12 des Romains, offrez vos corps en sacrifice agréable, s'offrir à Dieu, se consacrer à Dieu. Et alors, Dieu sanctifie, Dieu fait croître, c'est Dieu qui fait croître. Paul nous le dit aussi dans les Corinthiens, c'est Dieu qui fait grandir, c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui développe. Mais à condition que nous le voulions, que nous le désirions, ce que nous devons avoir dans le cœur, c'est cet amour qui répond à celui de l'époux, cet amour que nous voyons, j'en reviens toujours à ce texte merveilleux du Cantique des Cantiques, nous voyons cela chez la Sulamite, n'est-ce pas ? La Sulamite, la bien-aimée qui a son bien-aimé, eh bien, elle est animée d'un grand amour et d'une grande admiration pour son bien-aimé. Voilà donc le premier point. On ne marie pas des enfants, on marie des personnes majeures, des personnes qui ont grandi, qui se sont développées et qui ont cru. Deuxième aspect de cette préparation au mariage, il faut que l'épouse songe, comme le fait toute épouse dans toute famille, songe, et on songe à cela bien à l'avance, songe à sa robe de noces. Elle va devoir revêtir une robe de noces. Oh, mais ça, on y songe longtemps à l'avance. Moi, j'ai vu ça dans des familles, quelquefois 2 ans à l'avance, on pense à la robe de noces et on en discute. Eh bien là, il ne s'agit pas d'en discuter, mais il s'agit de la préparer, cette robe de noces. Voyons un premier texte, 2 Corinthiens 5, 2-4. 2 Corinthiens 5, 2-4. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous désirons nous revêtir. Vous connaissez aussi la parabole qu'a prononcée le Seigneur Jésus concernant ce roi, le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et le moment venu dans la grande assistance, voici que le roi voit un homme qui n'a pas revêtu la robe de noces. Et alors, ça va très mal pour celui-là. Bien sûr, c'est dans la parabole. Cela ne veut pas dire que dans le ciel, on trouvera quelqu'un non revêtu de la justice, de la robe de justice. Mais là, dans la parabole, le Seigneur le suppose pour montrer que cela est impossible. On ne peut pas venir aux noces autrement que revêtu de la robe de justice dont parle déjà le prophète Ésaïe, la robe de justice. Autrefois, les sacrificateurs étaient revêtus des vêtements sacrés. Et cela est pour nous, bien sûr, une indication, un enseignement, par symbole, par image, mais nous retenons la chose, elle est certaine, ils étaient vêtus de vêtements sacrés. Il fallait, nous dit le deuxième livre des Chroniques, il fallait qu'ils soient en même temps revêtus du salut. Vous voyez bien que cela nous montre que l'épouse, l'Église, doit être revêtue du salut, des vêtements sacrés. Nous aurons l'occasion d'ailleurs, ces vêtements sacrés, de les détailler. Pas maintenant, mais dans la prochaine étude. Nous les verrons de plus près. Par conséquent, des vêtements de justice. Je vais lire un psaume, 132 et verset 8. Psaume 132, verset 8. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté, que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. Vous savez que nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Dans l'Église, c'est ça, l'épouse. Forcément, à cette... Pourquoi l'épouse est-elle vue comme un royaume de sacrificateurs pour Dieu? Eh bien, à travers notre thème de l'époux et de l'épouse, cela est très apparent. L'épouse est appelée à être ce qu'est l'époux. Ont l'occasion de dire que l'épouse est appelée à régner, elle est appelée à s'asseoir sur le trône de son époux. Eh bien, il faut qu'elle soit sacrificateur, qu'elle soit composée de ses sacrificateurs, parce que Jésus est sacrificateur et roi. Ce sont les deux grands offices du Seigneur Jésus, souverain sacrificateur d'une part et roi d'autre part. Et ces deux offices se complètent l'un l'autre, s'emboîtent l'un l'autre, se suivent, si vous voulez, ou travaillent de concert l'un avec l'autre. Ce qui veut dire, par exemple, que si nous avons connu le Christ comme souverain sacrificateur, si nous l'avons connu comme souverain sacrificateur, c'est-à-dire si vraiment il nous a lavé, il nous a nettoyé, il a lavé notre cœur, il nous a régénéré, nous l'avons connu comme souverain sacrificateur, nous le connaîtrons comme roi. Vous voyez, il faut d'abord le connaître comme souverain sacrificateur, pour ensuite le connaître comme roi. Mais ceux qui ne l'auront pas connu comme souverain sacrificateur ne le connaîtront pas comme roi, c'est-à-dire ils n'entreront pas dans son royaume. Donc, les sacrificateurs, vous voyez, l'Ancien Testament nous le disait déjà, sont revêtus de justice. Et le prophète Ésaïe, que je citais à l'instant, c'est dans son chapitre 61 et verset 10, qu'il nous parle aussi de ce revêtement. 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Vous voyez, la terre fait éclore son germe. Le germe, c'est le Seigneur Jésus. Il est le fruit par excellence de la terre, le plus beau des fils de l'homme. Il est sorti du tronc d'Isaïe en germe pur, en germe juste. C'est le germe. L'homme, Zacharie l'appelle cet homme dont le nom est germe. Alors, tout cela, vous voyez, les prophètes avaient tous la même vision sur ce magnifique dessein de Dieu. Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, alors les semences, c'est nous les semences nombreuses qui poussons. La première semence est tombée en terre, elle est morte. Et puis, alors, une plante est sortie de terre, a porté du fruit, et nous sommes le fruit du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, mort et ressuscité. Alors, vous voyez, nous avons l'Évangile, là. Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé. Et l'allusion, donc, à ce thème de l'époux et de l'épouse est là aussi. Oui, quel accord il y a, quelle harmonie dans toute l'Écriture, c'est véritablement quelque chose de merveilleux, chers amis. Les textes d'Ésaïe ont été écrits 7 siècles avant notre ère. Alors, ça fait 20 siècles plus 7, 27 siècles ou 26 siècles et quelques, n'est-ce pas, que cela a été écrit. Et c'est tout est en accord, tout est en harmonie. C'est vraiment merveilleux. Et puis, l'apôtre Paul, pour sa part, dans les Romains, mais je ne vais pas multiplier trop les citations, nous parle, lui, de revêtement. Il nous dit « dépouillez-vous ». N'oubliez pas de vous dépouiller. Il faut vous dépouiller des œuvres mortes, vous dépouiller votre vieux vêtement pour revêtir, pour être revêtu. Revêtu de l'homme nouveau, il dira même revêtu de Christ, revêtu, soyez revêtu de Christ. Voilà le second aspect, la robe des noces, mais je vous le dis, nous y reviendrons en détail, nous verrons en détail cette robe des noces. Le troisième point est celui-ci, l'épouse qui est encore, nous l'appelons l'épouse, mais je le redis, elle est encore dans la position de fiancée, puisque son époux n'est pas là. Les noces n'ont pas encore eu lieu. Eh bien, l'épouse doit apprendre pendant le temps ou de préparation, elle doit apprendre à participer à la gestion des biens du maître, parce que les intérêts de l'épouse se confondront lorsque l'union aura eu lieu, le mariage aura eu lieu, les intérêts de l'épouse se confondront avec ceux de l'époux, les mêmes intérêts. Je viens de rappeler tout à l'heure que le Seigneur n'a bien dit que celui qui vaincrait s'assiérait sur son trône comme lui-même s'est assis sur le trône de Dieu, et différents textes nous montrent que l'épouse régnera aux côtés de son époux comme une reine. Nous le voyons dans bien des exemples que nous donne la Bible elle-même, l'épouse règne à côté de son époux. Alors, il faut qu'elle apprenne la gestion des biens du maître. Pour cela, voir cela, nous allons faire d'abord allusion aux deux paraboles, celle des talents dans Matthieu 25 et celle des mines dans Luc 19. Je ne vais pas vous relire ces deux paraboles, je pense que je m'adresse à des frères et des sœurs qui lisent la Bible tous les jours, c'est vrai, tous les jours, et qui la méditent. Et par conséquent, quand vous lisez ces textes, vous n'êtes pas sans vous poser des questions ou les poser au Saint-Esprit. Quand vous ne savez pas quelque chose, vous posez des questions, le Saint-Esprit vous éclaire, l'onction vous enseigne, et elle n'est point le mensonge. Il faut questionner le Saint-Esprit, pas avec un esprit de curiosité ou un esprit de mise en doute, n'est-ce pas? Non, mais au contraire pour savoir, pour entrer dans la véritable compréhension. Bon, alors, nous avons ces deux paraboles. Je prendrai d'abord celle de Matthieu. Peut-être nous suffira-t-elle d'ailleurs, Matthieu 25, et je vous rappelle simplement ceci, Matthieu 25, c'est à partir du verset 14, et le Seigneur commence cette parabole disant, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Il leur remet ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Et ce qu'il veut, et qui est tout à fait spécifié dans la parabole qui est à peu près parallèle, celle des mines dans Luc 19, la volonté du maître, c'est que ses serviteurs fassent valoir ses biens. Par serviteur, bien entendu, ne cherchons pas à faire des catégories. Ses serviteurs, cela englobe tous les rachetés de Christ. Bon, alors, il désire que ses serviteurs, tous ceux à qui il a remis une partie de ses biens, les fassent valoir. L'époux, donc, nous l'avons dit, est enlevé à son église, et avant de partir, l'époux confie à son épouse à venir, il lui confie ses biens, déjà. Des talents, il ne faut pas prendre le mot dans le sens qu'on lui donne généralement, c'est-à-dire des talents, des aptitudes à quelque chose, ou alors on pourrait tout de suite traduire des dons spirituels. Nous fausserions l'idée du texte. Les talents, c'était de l'argent, c'était des poids. C'était un talent, c'était un poids. C'était un poids d'or ou d'argent, mais on peut l'estimer aujourd'hui, le talent, à 6 000 deniers. Vous voyez, c'était considérable. Même un seul talent était donc une somme déjà considérable. Et les talents correspondent à quoi ? Eh bien, ils correspondent à l'objet du témoignage chrétien. Comment pouvons-nous faire valoir ? C'est par le témoignage. Nous recevons le baptême du Saint-Esprit pour être les témoins du Maître partout sur la terre. Alors, l'objet, c'est le témoignage chrétien, c'est-à-dire les biens du Seigneur sont la parole de vie, la puissance de l'Esprit, l'Évangile, disons d'un mot, l'Évangile. Et nous allons voir en effet comment l'apôtre Paul fait valoir, lui, les biens de son maître. Je vous rappelle simplement, ne tournez pas vos pages, je vous rappelle des citations que vous connaissez. Paul, par exemple, dans Romains 15, dit « J'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ ». J'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Alors, voyez, je vous avais dit tout à l'heure, nous serons obligés, dans l'étude des préparatifs au mariage, de faire entrer l'évangélisation. C'est la mise en valeur des biens du Maître. Alors, abondamment répandu l'Évangile de Christ. Donc, en faisant cela, Paul a fait valoir les biens de son Maître. Il dit aussi dans 2 Corinthiens, nous sommes venus à vous avec l'Évangile de Christ. Nous sommes venus, pas les mains vides, mais nous avions cette richesse, cette puissance de Dieu pour quiconque croit. Nous sommes venus avec ça. Voilà les talents qu'il avait, n'est-ce pas ? L'Évangile qui est une puissance et dont il se servait pour faire valoir, pour multiplier, pour amener des âmes à Christ. C'est ça, faire valoir. Il dit encore dans 1 Corinthiens, « C'est moi qui vous ai engendré par l'Évangile. » C'est moi qui vous ai engendré, je vous ai amené à la nouvelle naissance. Par l'Évangile, en me servant de l'Évangile, de la puissance de Dieu, de la parole de Dieu, je vous ai amené à naître de nouveau. Voilà comment on fait valoir les bien du Seigneur. Je connais un certain nombre, évidemment je ne connais pas tous les chrétiens, mais j'en connais déjà pas mal, et parmi tous ceux que je connais, il y en a qui, plus ou moins, mais enfin quelquefois, de façon assez remarquable, ont amené des âmes à Christ, Ils ont fait ainsi valoir les biens du Maître. Il dit encore, l'apôtre Paul, Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Voyez-vous, les talents, ces sommes d'argent, n'est-ce pas, sont tout simplement l'Évangile avec sa puissance d'engendrement, et cela a été confié. Eh bien, nous aussi, le Seigneur nous a confié l'Évangile. L'épouse a reçu ce dépôt de son maître qui le lui a confié. Voilà, il y a quelque chose d'intéressant et de délicat ici. Ce faisant, Christ, qu'a-t-il voulu faire ? A-t-il voulu vraiment tirer un gros profit de ses rachetés, de ses fidèles, de ses disciples ? Eh bien, ce n'est pas cela. Évidemment, vous me direz, faire valoir les biens, dans le sens que nous venons de dire, c'est-à-dire vraiment faire venir des hommes, des femmes en grand nombre au Seigneur, oui. Mes chers amis, attention, qu'est-ce qui fait cela ? Qui est-ce qui fait cela ? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ne nous illusionnons pas, ben, c'est le Saint-Esprit, merci Seigneur de nous employer, mais vous savez, le Seigneur a dit, quand vous aurez fait tout ce qui vous est ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Dans certaines traductions, c'est même des serviteurs incapables. Et le Seigneur sait très bien que nous ne sommes pas capables de faire l'œuvre de Dieu. Mais c'est par amour pour nous. Tout est dans l'amour. Il veut cependant nous mettre, nous faire entrer dans l'œuvre de gestion, dans l'œuvre de gestion de ses biens, dans l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, faire l'œuvre de Dieu. Mais Christ, donc, n'a pas eu tellement en vue de réaliser par nous de grands profits, d'avoir beaucoup d'intérêt, puisqu'il s'agit d'argent, disons intérêt, d'intérêt par nous, nos propres actions, mais il avait en vue quelque chose d'autre. Il avait en vue de tester la fidélité des membres de son Église. Et c'est pour mettre en évidence la fidélité de l'épouse ou des membres de l'Église, si vous voulez, pour mettre leur fidélité en évidence, qu'il nous a demandé ça. En effet, dans Matthieu 25, la parabole des talents, nous lisons au verset 21. Oui, au verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui a gagné les 2 talents aussi, parce qu'il n'en avait reçu que 2, le maître lui dit la même chose. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Voyez-vous, il veut que la fidélité ait l'occasion ainsi, dans la gestion des biens du maître, de se manifester. La fidélité. Tu as été fidèle en peu de choses, et pourquoi en peu de choses? Mais parce que, bien sûr, tu as parlé, tu es allé, tu as agi, tu étais là, physiquement présent devant les âmes qui sont venues à moi, mais... C'est l'Esprit qui a gagné ces âmes. C'est l'Esprit à travers toi, bien sûr, mais c'est l'Esprit qui a gagné ces âmes. Alors tu as été fidèle, fidèle d'aller vers ces âmes, de leur parler. Tu as été fidèle en peu de choses. Mais plus tard. Alors, du fait de ta fidélité maintenant, je pourrai plus tard te confier de grandes choses, les choses vraiment grandes. Cela après les noces de l'agneau, bien entendu. En faisant valoir les biens du maître, l'épouse sera donc montrée capable de beaucoup plus, d'une beaucoup plus grande responsabilité. Elle pourra faire face à une responsabilité bien plus grande. Mais il y a aussi des membres de l'Église qui peut-être n'auront rien fait valoir du tout. Au verset 26 de la même parabole, nous lisons son maître, il y a un peu plus haut, un homme qui vient, il n'avait reçu qu'un talent. Et il s'approche du maître en disant, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Un homme honnête, il restitue, il n'a pas dilapidé, il est honnête. Il est honnête. Mais la terre où il a caché son talent est aussi honnête que lui. La terre n'a pas abîmé le talent, n'a pas le talent, il était là. Mais son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est un de ces passages qu'on voudrait lire rapidement, n'est-ce pas? Non, il ne faut pas le lire rapidement, mais il faut bien se dire, chers amis, que nous avons tous, nous membres du corps de Christ, nous avons tous quelque chose à faire pendant que nous sommes sur la terre. Il ne faut pas rester passif. Il ne faut pas être indolent. Il ne faut pas se dire, bon, ben, je viens aux réunions, je suis là assis sur les chaises de l'église, tout va bien. Vous avez quelque chose à faire, même si c'est de balayer l'église. Je l'ai fait, moi. Alors, je puis vous dire que ça, c'est quelque chose qui n'est pas indigne, qui n'est pas avilissant, balayer, ben ça m'est arrivé de balayer l'église, n'est-ce pas? Eh bien, il y a toujours quelque chose à faire. Si on ne peut pas le faire soi-même, eh bien, ici, la parabole, dans l'image, nous dit de remettre au banquier, c'est-à-dire d'aller trouver les autres membres de l'église, d'aller trouver, par exemple, les ministères de l'Église, n'est-ce pas? Et puis, de leur dire, moi, j'ai pas beaucoup de capacité, moi, je ne dispose pas d'une grande force, mais je veux quand même être fidèle, et je veux montrer ma fidélité. Alors, j'aimerais faire quelque chose pour le Seigneur. Je sais que vous avez tous ce désir dans le cœur. Alors, vous demandez à ce qu'on vous confie quelque chose, qu'on vous donne quelque chose. Alors, par l'intermédiaire de l'Église ou des ministères dans l'Église, vous ferez valoir le peu, peut-être, que vous avez. Vous le ferez valoir. Voilà ce que le Seigneur a entendu nous dire. Et nous avons alors le quatrième aspect des préparatifs. Quatrième aspect des préparatifs, le voici, c'est l'attente de l'époux dans la vigilance. L'épouse, donc, attend son époux. Nous savons bien que la fin de la Bible est comme ceci, et l'Esprit, dans l'Apocalypse, et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu qui est avec l'Épouse, l'Esprit de Dieu est avec l'Épouse, il est là. C'est le grand, comment pourrait-on dire, le grand intendant, si vous voulez. Il est là avec l'Église et tous deux ensemble s'expriment en disant « Viens, Seigneur Jésus, viens, viens, amen, viens, Seigneur Jésus. » Alors, il est normal que l'épouse aspire à la venue de l'époux. Nous avons là un texte important dans cet ordre de choses, concernant l'attente de l'époux par l'épouse. Nous avons la parabole des 10 vierges, notamment. Parabole des 10 vierges qui est aussi dans Matthieu 25, dans les 13 premiers versets. Et cette parabole nous apprend que nous ne savons pas l'heure du retour de l'époux, ni même le jour. Enfin, d'autres, les textes, le contexte nous le dit. Nous ne savons pas à quelle heure, ni même le jour, à quel jour le Seigneur reviendra. Mais il faut que l'attitude de l'Église en tout temps soit celle qui correspond aux vierges sages. Vous savez qu'il y a 10 vierges, il y en a 5 qui sont folles, 5 qui sont sages. Les sages et les folles ont pris toute une lampe pour aller à la rencontre de l'époux. On croyait que l'époux allait venir normalement, comme cela se passait dans la tradition, selon la tradition, vers entre 18h et 19h. À ce moment-là que l'époux arrivait. Alors, elles sont parties avec leurs lampes. Et il y avait de l'huile dans la lampe, dans toutes les lampes, il y avait de l'huile. Mais les sages se sont dit, et aurons-nous assez de cette huile-là? Et elles avaient d'ailleurs pris le pli d'avoir toujours une réserve d'huile. Elles avaient une réserve. Elles avaient un petit vase, en dehors de la lampe, un petit vase rempli d'huile pour éventuellement compléter le réservoir de la lampe. Quant aux vierges qui sont folles, elles sont parties dans l'insouciance. Elles ne prenaient jamais la précaution d'avoir cette petite réserve. Et alors, elles sont parties comme ça, on va attendre l'époux, on entrera dans la salle des noces, mais bien sûr, elles étaient confiantes, peut-être trop en elles-mêmes, confiantes dans l'insouciance, mais pas sagement confiantes. Et alors, elles n'avaient pas cette réserve d'huile, c'est ce qui fait la différence entre les deux catégories de vierges. Et à quoi correspond cette petit vase de réserve de l'huile? Ah, cela correspond, chers amis, à la vie intérieure de l'esprit. Où on a une vie intérieure, qui est la vie de l'esprit, où on en a peu, où on en a peut-être pas. Alors, on est bien, certes, membre de l'Église, mais on ne prend pas soin, par vigilance, par sage réflexion, par une piété persévérante, par une adoration continuelle et fervente de son Seigneur, on n'a pas pris la précaution de soigner sa vie intérieure, qui est la vie de l'esprit. Je ne veux pas dire que la réserve soit uniquement la plénitude du Saint-Esprit. Non, je pense que c'est la vie intérieure qui fait défaut chez les folles. C'est la vie intérieure. Alors, elles ont bien leur lampe allumée, mais ça ne va pas loin, ça ne peut pas durer longtemps. Alors, si le maître était venu à entre 18 et 19 heures, tout se serait bien passé pour les folles comme pour les autres, et elles seraient toutes entrées parce que leur lampe aurait encore donné sa lumière. Mais voici que l'époux tarde. Ah, l'époux tarde. Et toutes les vierges s'endorment, elles s'endorment. Ce qui ne veut pas dire, n'interprétez pas surtout cela comme signifiant que l'Église s'endort. L'Église, il faut qu'elle soit réveillée. Non, mais c'est dans la parabole que le Seigneur met ça. Il veut que c'est les vierges s'endorment toutes de façon à ce que toutes soient placées dans les mêmes conditions lorsque l'époux revient. Lorsque l'époux revient, c'est la surprise. Tout le monde dort, alors il y a un cri, « Voici l'époux !» Alors vite, il faut sortir de son sommeil, il faut se réveiller, n'est-ce pas? C'est une surprise, et c'est cela que le Seigneur Jésus a voulu. C'est une surprise. Vous ne saurez pas à quelle heure viendra votre maître. Vous ne le saurez pas. Vous ne pourrez pas le savoir. Il faut que vous soyez toujours prêts. Et alors, les sages, elles ont, cette réserve d'huile. Alors, évidemment, toutes les lampes, n'est-ce pas, clignote un petit peu, ça ne c'est prêt peut-être de s'éteindre, mais les sages, vite, elles remplissent le réservoir. Les autres, elles n'ont pas de réserve. Elles n'ont pas de réserve. Alors, elles demandent, mais ça l'échange n'est pas possible. Elles vont chez des marchands essayer de trouver de l'huile au dernier moment. Ce n'est pas au dernier moment qu'on prend les dispositions.
pour être prêt à être enlevé par son Seigneur. Ce n'est pas au dernier moment. Ça, le Seigneur ne peut pas accepter ça. C'est longtemps à l'avant, c'est pendant toute la vie chrétienne qu'il faut prendre les dispositions. Et les dispositions importantes, ce sont celles d'une vie intérieure fervente, ardente. Il faut que nous ayons le Saint-Esprit en nous, mais le Saint-Esprit est libre, que nous laissons libre de nous conduire dans la ferveur, dans la piété. Il ne faut pas de paresse, d'indolence, d'insouciance, de négligence. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, dit l'Écriture. La négligence. Les vierges folles, ce sont des vierges négligentes. Elles ont négligé. Elles n'ont pas réfléchi. Elles n'ont pas vraiment eu le désir de tout faire pour être là présente dans la salle des noces quand le Seigneur reviendrait. Voilà, les cinq vierges folles, donc, malheureusement, il leur arrive quelque chose qui est bien triste pour elles. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » C'est le texte, c'est la parole du Christ. Je ne vous connais pas. Vous savez ce que ça veut dire. Dans une autre parole, le Matthieu 7, le Seigneur dit « Je ne vous ai jamais connu » à ceux qui commettent l'iniquité. Il ne le dit pas ici. « Je ne vous ai jamais connu ». Ça veut dire « Je n'ai jamais eu de communion avec vous, je n'ai jamais eu de relation avec vous ». Mais là, ici, il dit « Je ne vous connais pas ». C'est-à-dire « Je ne suis pas en relation avec vous ». C'est encore ce qui me renforce dans l'idée que la réserve d'huile correspond à la vie de l'esprit. Vie de l'esprit, vie intérieure. Il n'y a pas de vie de l'esprit et par conséquent, le Seigneur, la communion est quelque chose de presque inexistant. Il n'y a pas de vie de l'esprit. Quand il y a vie de l'esprit, il y a une communion, une relation avec le Seigneur. C'est ce qu'il faut. Il faut cette relation. Chers amis, vous voyez comme il faut prendre ces choses au grand sérieux. Au grand sérieux. Les jours se succèdent, les mois, les années, puis nous sommes là dans l'Église. Attention de ne pas nous laisser aller au sommeil, comme dit l'apôtre Paul, ou à l'indolence, en nous confiant dans une fausse sécurité. Oh, oui, nous sommes de l'Église, nous sommes convertis, avons été baptisés Saint-Esprit, le Seigneur nous prendra, il prendra tout le monde. Je ne veux pas, voyez-vous, interpréter ce que dit le Seigneur. Mais je le répète, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. C'est quelque chose d'infiniment sérieux. De son côté, lui, Dieu a tout préparé. Il a tout préparé. Christ a préparé une place pour ses rachetés. Dieu a préparé une cité qui déjà est appelée l'épouse. En avant, l'épouse, femme, la femme de l'agneau, dans Apocalypse chapitre 21, versets 9 et 10. Et pour terminer, alors, j'insisterai bien là-dessus, chers amis, nous arrivons un moment des temps qui est certainement de la fin des temps. Toute l'Église est située dans ce qui est appelé la fin des temps, les temps eschatologiques. Mais nous arrivons à la fin de la fin des temps. Nous sommes là à la fin de la fin. Tout le montre, tout le prouve. Tout le prouve, les événements autour. Le Seigneur a dit regardez. Regardez le figuier, quand vous voyez que les feuilles commencent à pousser, vous savez que l'été est proche. Eh bien, de même, regardez autour de vous, regardez les événements. Et vous allez voir l'iniquité s'accroître, l'amour se refroidir. Chers amis, le spectacle que nous donne la société humaine est tragique, tragique. Nous voyons vraiment que l'amour s'est refroidi au point que quantité d'hommes veulent ignorer Dieu, veulent même mépriser sa parole. Ce sont des moqueurs que l'on trouve. Hélas, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et ce qu'il a demandé dans cette parabole de Luc, là de laquelle je retire cette citation, ce qu'il a demandé, c'est que l'Église crie à lui jour et nuit. Crie jour et nuit. Mes amis, nous sommes dans un temps où il faut prier. Il faut prier chacun dans sa maison, il faut prier en commun aussi. Dimanche, nous aurons un jeûne dimanche. Il faudra que nous prenions un temps aussi pour prier pour cela, pour que tous, sans exception, tous les membres de l'Église soient prêts, et aient par conséquent une vie intérieure, une vie de l'Esprit, une vie animée par l'Esprit, une vie qui véritablement n'est pas la vie courante de l'homme, mais la vie de résurrection du Seigneur. Il faut que l'Église vive son salut et vive pour son salut. Il n'y a que comme ça, d'ailleurs, qu'elle peut faire valoir les biens du Maître vis-à-vis du monde, des âmes du monde, qu'il faut appeler. Il y a tant d'âmes qui se perdent, n'est-ce pas? Nous sommes sensibilisés par cela. C'est bien. Mais si nous ne sommes pas, nous, ceux et celles qui avons une vie intérieure active, fervente, eh bien, nous ne pouvons rien pour le monde, rien pour les âmes, parce que nous ne pourrons pas faire valoir les biens du Maître, ça n'aura pas de force. Nous avons dit que pour faire valoir les biens du Maître, il fallait répandre l'Évangile, qui est une puissance. Il faut donc disposer de puissance. Si l'Évangile sort simplement de notre mémoire, il n'a aucune puissance. Il faut qu'il sorte de notre sein comme une eau vive. Comme une eau vive, il faut qu'il sorte de nous comme une eau vive. La vie intérieure, qui comprend certes la plénitude du Saint-Esprit, mais je n'ai pas voulu limiter à la plénitude du Saint-Esprit pour être plus large et surtout ne pas, si vous voulez, apporter au texte une interprétation trop serrée. J'ai préféré dire la vie de l'Esprit. Moi, dans ma pensée, c'est bien cela, la vie de l'Esprit, la vie intérieure, qui doit être forte, active. Voilà ce que le Seigneur nous demande, chers amis, donnons-le-lui. Nous pouvons le lui donner, nous avons la foi pour cela, et nous avons l'amour, et nous avons même plus encore, nous avons l'Église. Et nous sommes là pour nous aimer les uns les autres, nous exhorter les uns les autres. Que le Seigneur soit béni. Amen.